Maintenant, un bon boîte de casse.
Maintenant, un bon boîte de casse.
Et maintenant, un bon boîte de casse.
Et bonjour à toutes et tous, en compagnie de Alain Éperon, le créateur, enfin le responsable de la société Croquignic Douille. On passe à travers le jeu Le Marché de Samarcande. Rebonjour Alain.
Rebonjour.
Alors, Le Marché de Samarcande ne permet pas de chasser des mammouths. On est sur un jeu qui n'est pas d'Alain Éperon.
Non, ce n'est pas un jeu de... C'est un jeu de Bruno Fricou. C'est son premier jeu. Parce que c'est une des choses que j'essayais de mettre en avant dans ma société, c'était donner de la chance aux premiers aux jeunes auteurs, c'est-à-dire aux auteurs non édités ou très très peu édités. À l'inverse de, d'auteurs qui ont déjà plus connus, j'ai pris ce créneau-là, qui est un créneau un peu risqué parce que un auteur qui n'est pas connu, effectivement, il n'a pas le même aura qu'un Feduti, qu'un Catala ou voilà. Mais sachant la difficulté qu'ont les auteurs de trouver des éditeurs, je me paraissait intéressant de miser là-dessus et puis de partir sur cette aventure avec des jeunes auteurs.
Tout à fait. Alors le jeu représente, en fait, c'est un marché où on va vendre des marchandises, mais alors il y a une mécanique qui n'est pas super habituelle, c'est ce qu'on appelle les enchères à l'hollandaise. Comment est-ce que ça fonctionne, ça?
Alors les enchères hollandaises, j'ai appris le terme qu'après coup, c'est des enchères descendantes, c'est-à-dire qu'on va partir d'un seuil élevé, en l'occurrence 10, et on va descendre l'enchère jusqu'à 0, voilà. À chaque fois. Donc à chaque fois, se poser la question, c'est est-ce que j'achète maintenant ou est-ce que j'attends que ça descende encore, au risque de me faire prendre la marchandise sous le nez par un autre joueur. Donc il y a toujours ce dilemme. À l'inverse des enchères classiques, où les enchères classiques, c'est souvent celui qui a le plus d'argent qui remporte l'enchère. Là, on a beau avoir beaucoup d'argent, on n'est pas sûr de remporter l'enchère, et c'est celui qui va en fait craquer le premier qui va récupérer la marchandise.
Alors le matériel, justement, c'est un jeu de cartes avec des jetons pour représenter les pièces, et on a des paravents qui vont permettre de cacher les pièces qu'on a gagnées et qu'on va s'échanger. On ne va pas ramener ses propres marchandises chez soi, c'est pour ravir ses femmes, on va aller chercher un maximum de marchandises. L'argent va circuler d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut décrire un tour de jeu, sachant qu'il y a un maître de marché qui va faire les enchères et les autres vont acheter?
Alors, chaque joueur a sa propre marchandise et va devoir acheter les marchandises des autres joueurs en essayant de ne pas en oublier une, parce que oublier une marchandise, ça coûte cher. Donc un tour de jeu, chaque joueur choisit une de ses cartes qu'il va mettre aux enchères.
Donc on a chacun des marchandises différentes, mais les cartes au niveau des valeurs sont les mêmes.
Les valeurs sont les mêmes. Donc il y a 3 cartes de 1, 3 cartes de 2, 2 cartes de 3, une carte de 5, une carte de 6 et une carte de 7.
Quelle mémoire!
Ouais. Pour ceux qui se poseraient la question pourquoi il n'y a pas de carte de 4, je les invite à contacter l'auteur qui leur expliquera mieux que moi pourquoi il n'y a pas de carte de 4, parce que moi j'ai pas encore tout bien compris pourquoi il n'y en avait pas. Voilà, mais il n'y a pas de carte de 4 à l'intérieur.
C'est pour buzzer, quoi.
Non, en gros c'était pour marquer la différence entre les cartes où il y avait plusieurs exemplaires et les cartes avec un seul exemplaire, en gros. Donc chacun a un set de cartes avec des marchandises différentes, mais avec les mêmes valeurs. Chaque joueur choisit donc une carte de sa main qu'il va mettre aux enchères. Une fois que tout le monde a choisi sa carte, le doyen commence l'enchère descendante, et dès qu'un joueur veut acheter une carte, il arrête l'enchère en disant stop ou d'une autre manière, comme on veut. Enfin, ça va se mettre.
Ce qui s'est vu très souvent, c'est que chacun tape sur la table.
Voilà, taper sur la carte qu'on veut, ou chacun fait un peu ce qu'il veut. Généralement, au départ, ça recommence gentillet, à la fin, ça devient un peu plus violent. Et paye donc la somme au vendeur, la somme de l'enchère au vendeur. Particularité, si deux personnes veulent la même carte au même moment, ou si trois personnes veulent la même carte au même moment, il y a ce qu'on appelle une dispute. Et dans ce cas-là, soit le doyen participe à la dispute, et dans ce cas-là, il est prioritaire, de par son grand âge, c'est l'avantage du doyen.
S'il avait dit stop dans l'enchère.
S'il avait dit stop, voilà, s'il participait à la dispute. Soit si le doyen ne participe pas, les joueurs ont la possibilité soit de se désengager de la bagarre et de laisser la carte, soit s'ils ne veulent pas laisser la carte, dans ce cas-là, tous les joueurs payent la moitié de l'enchère au vendeur, et la carte est défaussée et n'appartient à personne. Alors il y a des fois, c'est intéressant de se retirer, si c'est pas forcément une carte trop importante qu'on veut, on peut se retirer et puis laisser la carte à l'autre joueur. Il y a des fois, c'est beaucoup plus intéressant de maintenir son envie, pour pas que la carte soit scorisée par l'autre joueur. Quitte à dépenser un peu d'argent, mais au moins la carte n'est pas scorée, ne sera pas scorisée par l'autre joueur, ce qui peut avoir des avantages à un moment donné.
Alors justement, il y a un élément supplémentaire qui est le chameau, puisque c'est pas tout acheté, il faut encore le ramener à la maison.
Voilà, donc c'est beau d'acheter ses marchandises, maintenant il faut les ramener. Donc pour ça, il y a des cartes chameaux qui vont s'acheter de la même façon. La seule différence, c'est que les chameaux vont être payés à la banque, donc c'est de l'argent qui va sortir du jeu. Au départ, chaque joueur a une somme d'argent identique, donc l'argent va tourner en cercle fermé entre les joueurs. Sauf que dès qu'on va acheter des chameaux, c'est de l'argent qui va sortir du jeu. Donc on va avoir moins d'argent au fur et à mesure dans la partie. Et les chameaux ont une valeur aussi, qui va de 3 à 6. Hein, et cette valeur va représenter le nombre de cartes qu'on va pouvoir garder à la fin de la partie sur les cartes qu'on aura achetées.
Alors précision, c'est le nombre de cartes, c'est pas les valeurs de cartes.
Hein. Pas la valeur des cartes, hein, sinon on en arrive à des...
À des choses un peu bizarres.
Donc si j'ai un chameau de 5 à la fin de la partie, je pourrais garder que 5 cartes sur toutes celles que j'ai achetées. Si j'ai acheté un chameau de 5 et un chameau de 3, je pourrais garder 8 cartes.
Ça, c'est déjà une manière de calculer ces points. Parce que le jeu d'enchères, le choix va vraiment se faire sur le calcul de points final qu'il faut bien avoir en tête jusqu'à la fin.
Voilà. Alors le calcul de points est assez alambiqué. Beaucoup l'ont rapproché à ce que pouvait faire Kinexia à certains moments. Ce qui est une référence qui nous va bien. Donc il va y avoir trois manières de marquer des points à la fin de la partie. La première manière, la plus simple, c'est celui qui a le plus d'argent marque 5 points, le deuxième 3 points, le troisième 1 point, les autres rien du tout. Jusqu'à là, tout ça, ça reste simple. Après, on va marquer des points sur la couleur de carte qu'on a la moins achetée. Donc sur toutes les couleurs de cartes qu'on aura, on va prendre celle qu'on a la moins achetée, donc celle où on a le moins de cartes, et on va marquer le nombre de points indiqués sur les cartes. Donc généralement, il faut essayer d'avoir une couleur où on n'a pas beaucoup de cartes et où on a des cartes de forte valeur dans cette couleur-là pour marquer le plus de points. Dernière façon de marquer des points, ça va être sur les valeurs des cartes identiques. Donc sur les suites de cartes de même valeur. Dans ce cas-là, si on a une seule carte, on marque 0 points. Ça ne rapporte rien. Deux cartes vont rapporter 1 point, 3 cartes 2 points, 4 cartes 4 points, 5 cartes 8 points. 6 cartes ou plus, 16 points. C'est-à-dire que c'est exponentiel, on double à chaque fois la valeur. Donc là, effectivement, il va falloir essayer d'avoir les plus grandes séries de même valeur, et notamment des séries de 1, de valeur 1 ou 2, où c'est là qu'il y a le plus de cartes, pour marquer énormément de points à la fin.
C'est pour ça qu'on parlait de diversité des différentes marchandises à ramener, c'est que ça marque beaucoup de points à la fin.
Voilà. Ça peut marquer beaucoup de points à la fin si on laisse faire un joueur qui arrive à récupérer plein de cartes de même valeur. Donc bien faire attention à ça, c'est regarder son jeu, mais regarder aussi ce que les autres achètent pour essayer de les bloquer.
Sachant que ce que les autres ont acheté est visible des autres joueurs.
Voilà. Sachant que ce qu'on achète reste visible, c'est ce qui va permettre aux joueurs de choisir les cartes qu'il va mettre aux enchères et de voir aussi où on va pouvoir bloquer les joueurs. Et c'est là qu'intervient le chameau aussi, qui est une carte qui est très très importante. C'est qu'avec le chameau, on va pouvoir refaire sa main à la fin de la partie. En gros, si j'ai plus de cartes que de capacité de transport, je vais pouvoir défausser des cartes et c'est moi qui vais choisir les cartes que j'ai défaussées. Donc je vais pouvoir refaire ma main, donc je vais pouvoir acheter des cartes qui ne m'intéressent pas mais qui vont gêner les autres en sachant que je vais pouvoir les défausser à la fin. Voilà, donc on va pouvoir refaire sa main comme ça. Attention par contre, si on a trop de chameaux et pas assez de cartes, on a une pénalité de 2 points par emplacement libre sur ces chameaux. Donc, bien gérer ça, mais le chameau, c'est ce qui va vraiment apporter toute la stratégie au jeu à la fin, où on va pouvoir effectivement gêner les autres, acheter des cartes qui ne nous intéressent pas, en sachant qu'on va pouvoir refaire sa main à la fin grâce au chameau. C'est quelque chose qui est assez pas forcément facile à gérer au départ, à comprendre au départ, mais qui devient très, très puissant par la suite. Quoi.
Effectivement, je crois que c'est un jeu où il faut jouer 3-4 parties avant de vraiment bien assimiler les règles.
C'est un jeu qui demande une certaine initiation à la base hein, pour réellement assimiler et commencer à faire des bons coups, des gros coups. Et ça se voit au niveau des points. Les premières parties, on va tourner autour d'une vingtaine de points. Au bout de 3-4 parties, on va atteindre des scores de 40, voire même 50 points. Et là, ça devient... C'est très stratégique dans le choix des cartes qu'on met aux enchères, dans le choix des cartes qu'on va acheter, de ce que les autres ont fait. Enfin bon, voilà.
Alors le jeu a été illustré par un illustrateur qu'on ne connaît pas spécialement.
Qu'on ne connaît pas spécialement, je dirais si, parce que c'est pas un inconnu. Autant Mahamut, ça avait été effectivement un jeune illustrateur qui était quasiment à son premier jeu.
Rappelle-moi son nom.
C'était Fabrice Bovy, qui a illustré aussi Tadam récemment. Autant Saint-Marcande, c'est Loïc Billot qui a fait les illustrations, qui est l'auteur et l'illustrateur de Machi, qui a illustré aussi d'autres jeux, qui a illustré récemment Glenmore. Donc c'est pas un inconnu. La particularité, c'est qu'il a dû travailler dans des conditions extrêmes et qu'il a fait un superbe boulot dans les conditions qu'il avait. Il avait 15 jours pour illustrer le jeu.
On a vu les illustrations passer sur Facebook, effectivement, ça bougeait beaucoup.
Et 15 jours avec les vacances de Noël à l'intérieur, donc il a passé ses vacances de Noël à faire les illustrations des jeux. Il a fait un énorme travail en très très peu de temps et je le remercie pour ça parce que c'était franchement pas évident. Dernière petite chose que je dirais sur le marché de Saint-Marcande, c'est un jeu qui a été primé à Ugine, qui a eu le prix du jury à Ugine en 2009. C'est à partir de là que j'ai décidé de l'éditer, en le voyant tourner à Ugine.
Tu avais d'autres possibilités pour comme deuxième jeu à faire chez Croque-Nidouille?
Oui, au départ, c'était pas celui-là qui était prévu, mais comme tout, hein, y a ce qui est prévu et puis il y a ce qui se fait. Régente qui était prévu de sortir en deuxième, mais Régente a pris du retard parce que les coûts de fabrication étaient beaucoup trop élevés par rapport à celui-là. Donc il a fallu trouver un jeu pour temporiser, et ça a été effectivement, j'ai eu le coup de cœur sur Ugine sur celui-là, qui a énormément plu au public à Ugine, vu qu'il a remporté le prix, et donc voilà.
Tu peux donner des détails sur ce prix à Ugine? C'est de quoi, lors d'un festival?
C'est alors le festival d'Ugine, c'est un festival qui a lieu début décembre, où il y a un concours de création, et ils sélectionnent 6 finalistes, hein, et donc cette année en 2009, il y avait en finaliste Fruit Schlaffé, que j'avais déjà signé, donc qui lui sortira normalement après Régente. Il y avait Baba Aurum, qui est devenu Saint-Marcande, à part le marché de Saint-Marcande qui s'appelait Baba Aurum, et d'autres jeux que je ne sais plus. Voilà. Et je ne m'inquiétais pas trop pour Fouchafé, qui a effectivement remporté le premier prix. Et dès que j'ai vu le Baba Aurum, c'était clairement un jeu pareil qui allait être primé. Qui fonctionnait très bien. Il n'y a quasiment pas eu de retouches. La seule chose qu'on a intégrée, pareil, en l'espace de 15 jours, ce qui a nécessité énormément de tests de par l'auteur, c'était cette histoire de chameau qui n'existait pas, qu'on a rajouté à ce moment-là. Et lui a passé ses vacances de Noël à jouer à son jeu avec différentes personnes. Il a mis en contribution sa famille, ses amis, ses voisins, enfin... Tout le monde qu'il pouvait trouver à ce moment-là, et en 15 jours, il a fallu qu'on règle cette histoire de chameau aussi. Et on est très content du résultat, et parce que ça a apporté un grand plus au jeu, et on est très très content de ce truc-là. Même si ça n'a pas été évident entre le moment où j'ai pris la décision d'éditer le jeu et le moment où on a lancé la production, il y a eu 3 semaines. Voilà. Donc, il a tout fallu gérer tout en 3 semaines, donc ça n'a pas été simple. Mais, voilà.
Ok, bon, on regardera ça alors. Merci beaucoup, Alain.
De rien, merci.
Vous avez aimé ce podcast? Alors appuyez sur la touche Trop Cool. Vous n'avez pas aimé ce podcast? Alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.